Chapitre 10. La marraine. À Montreux, près de Clarence, sur les bords enchantés du lac Léman, demeurait la marraine de Babette, la grande dame anglaise, avec ses filles et un jeune parent. Elle était récemment arrivée d'Angleterre, mais déjà le meunier était allé rendre visite et annoncer le mariage de Babette. Il avait parlé de Rudy, de la fête du tir, de l'aiglon. Bref, il avait raconté toute l'histoire de ses fiançailles qui avait vivement intéressé les auditeurs. Tout le monde s'était épris de Babette, de Rudy et même du meunier. On les avait tous trois invités à venir passer une journée à Montreux. Toute cette côte du lac a été chantée par les poètes. Là, au bord de ces eaux d'un bleu limpide, Byron venait s'asseoir sous les noyers et y écrire ses magnifiques vers sur le prisonnier enfermé jadis dans le sombre château de Chillon. Un peu plus loin, sous les hauts ombrages de Clarence, Jean-Jacques Rousseau se promenait, rêvant à Héloïse. Un peu en arrière, à peu de distance de l'endroit où le Rhône se précipite dans le lac, se trouve un îlot aussi petit que, de la côte, on le prend pour une barque. Ce n'était, il y a 100 ans, qu'un rocher. Une belle dame d'alors y fit porter de la terre et planter 3 acacias qui, aujourd'hui, couvrent tout l'îlot de leur feuillage. Babette trouva ce lieu ravissant. À son goût, c'était le plus beau point de ce magnifique paysage. « Qu'on doit être bien dans ce petit paradis, » disait-elle. Elle eût voulu y aborder, mais le bateau à vapeur ne s'arrêta pas et déposa les voyageurs à Vernex. Ils s'acheminèrent entre les murs blanchis, brûlés par le soleil, qui bordent les vignobles de Montreux. Devant les chaumières des paysans s'élevaient des touffes de figuiers, de lauriers et de cyprès. La maison de la marraine était située à mi-côte. Ils y furent reçus avec la plus vive cordialité. La marraine était une grande femme, à l'air souriant et gracieux. Dans son enfance, elle avait dû ressembler à un ange de Raphaël. Maintenant, avec ses cheveux argentés, on aurait dit une figure de sainte. Ses filles étaient de grandes demoiselles, élancées, élégantes, habillées à la dernière mode. Leur jeune cousin était vêtu de blanc de la tête aux pieds. Il avait des cheveux blonds tirant sur le roux et une longue barbe de la même couleur. Il se montra dès l'abord plein d'attention pour la petite Babette. Dans le salon, sur une grande table, se trouvaient des gravures, de beaux albums richement reliés, mais on ne pensait pas à les regarder. Les fenêtres qui donnaient sur le balcon étaient ouvertes et l'on apercevait dans toute son étendue le magnifique lac. La nappe d'eau était si tranquille que les montagnes de la Savoie, avec leurs villages, leurs bois, leurs cimes neigeuses, s'y réfléchissaient comme dans un miroir. Rudy, qui était toujours si hardi, si gai, se sentait pour la première fois de sa vie hors de son élément. Il marchait sur le parquet ciré comme sur des poids. Que le temps lui paraissait long, que ses manières anglaises, élégantes et compassées, l'excédaient. Il soupira d'aise lorsqu'on sortit pour se promener. Mais, nouvel ennui, on marchait si lentement qu'il pouvait faire 3 pas en avant, puis 2 en arrière, et cependant n'être pas en retard. Ils allèrent visiter le vieux et sombre château de Chillon, tout entouré des eaux du lac. Ils virent la prison, l'attirail de torture, le billot pour les exécutions, la trappe par où les condamnés étaient lancés, dit-on, sur des piquants de fer au milieu de l'eau. Byron a rendu ces lieux célèbres dans le monde de la poésie. Mais Rudy s'y sentait presque aussi malheureux que s'il avait été prisonnier. Il s'accouda à une fenêtre et regarda vers le petit îlot solitaire aux 3 acacias. C'est là qu'il eût voulu être, loin de toute cette société qui l'importunait, le rustique chasseur, avec le babil et les façons des citadins. Babette, au contraire, était aux anges, elle s'amusait divinement. Elle le dit à Rudy, au retour, ajoutant que le jeune Anglais l'avait déclaré une jeune fille accomplie. « Lui, c'est un fat accompli !» répliqua Rudy brusquement. C'était la première fois qu'il dit une parole qui déplut à Babette. Le jeune gentleman lui avait donné un souvenir, un joli petit volume, « Le prisonnier de Chillon » de Byron, traduit en français. « Cela peut être un livre intéressant, reprit Rudy, mais quant au Godelureau si bien peigné qui te l'a donné, je ne puis le souffrir. »« Il m'a fait l'effet d'un sac de farine sans farine, dit le meunier en riant de bon cœur de sa plaisanterie. » Rudy en rit encore plus fort et trouva que le meunier avait prodigieusement d'esprit.